Aujourd'hui, nous commençons par aborder la troisième forme de la société des égaux, la communauté des citoyens. Après l'égalité comprise comme similarité, après l'égalité conçue comme réciprocité, nous allons maintenant considérer l'égalité sous les espèces de la concitoyenneté. L'égalité s'exprime dans ce cas sur le mode d'une inclusion et d'une participation. Et le citoyen est considéré en fait sous deux espèces. Il est considéré sous les espèces d'un sujet qui est porteur de droits propres et sous les espèces d'un membre de la communauté. On peut dire que le citoyen, il est à la fois individu et peuple. Et cette figure de l'égalité, elle est simultanément, c'est sa spécificité, de l'ordre d'une mesure et de l'ordre d'une relation. C'est ce qui fait la centralité du suffrage universel. Il a à la fois reconnaissance de l'individu égalité, un homme et plus tard une femme, une voix, et manifestation de l'individu communauté, le participant au corps politique. Il est d'abord donc individu électeur. Cette forme peut être considérée comme une forme radicale de l'égalité. Parce que la formulation « un homme, une voix », il n'y a pas de formulation plus simple et plus universellement acceptée de la notion d'égalité. Alors que l'égalisation des individus reste dans tous les domaines problématique, elle semble trouver dans l'ordre politique une expression évidente. Nul ne songerait en effet à discuter qu'en termes de droit de suffrage, l'égalité arithmétique, cette fois-ci, la plus élémentaire, soit l'expression adéquate d'une juste répartition. Il y a là une singularité, on pourrait même dire une exception qui mérite d'être soulignée, car cette coïncidence ne se retrouve pour aucun autre type de ressource. Si les individus sont totalement autres et non égaux, pour reprendre la formule célèbre d'Aristote, l'égalité arithmétique et l'équité sont en effet mécaniquement dissociées. Et on sait que Marx reprendra ces catégories pour le rappeler avec force et souligner, ce sera sa formulation, que dans un monde de la diversité, l'égalité arithmétique est inégalité, d'où sa formulation de la juste répartition comme une attribution des biens selon les besoins de chacun. Et en matière de suffrage, ça n'est pas la même chose. En matière de suffrage, c'est différent, car égalité et équité se superposent parfaitement dans ce cas, cas unique. Car le bulletin de vote, il a pour caractéristique d'uniformiser les arguments et les intentions, de les réduire à une donnée objective et calculable. Car il donne un langage commun à des expressions totalement hétérogènes. Il simplifie sur ce mode, le monde social. On peut dire que dans le bulletin de vote, les raisons et les passions sont ramenées à une même mesure. Il n'y a ni hiérarchie de connaissances ou de talents, ni considération de motivation qui importe. Au final, il y a juste un décompte, une résultante mécanique et totalement dépersonnalisée de l'expression de chacun. On peut dire que dans ce cas, l'égalité procède du fait que l'on compte les voix et que l'on ne les pèse pas. Alors qu'à l'inverse, toute la philosophie du suffrage censitaire sera justement de peser les voix, c'est-à-dire de moduler la part de chacun dans l'expression collective en fonction de qualités propres qu'il peut avoir, de talent, de richesse, etc. On peut donc dire que dans ce cas, tous les critères ordinaires de l'évaluation de l'action des hommes et de la légitimité se trouve suspendu. Pourquoi ? Parce que le champ politique est le seul qui ne soit pas réglé par un ordre de compétence. Le grand savant et l'esprit le plus simple sont en effet considérés comme également capables de penser au bien commun et de dire ce qu'ils considèrent comme juste ou injuste dans l'organisation de la cité. Le citoyen, le porteur de vote, s'appréhende de façon symétrique, pourrait-on dire, comme un pur individu, détaché de toutes ses spécificités. Je cite Sieyès. Le droit à se faire représenter, dit-il, n'appartient aux citoyens qu'à cause des qualités qui leur sont communes et non pas à cause de celles qui les différencient. On peut dire que le citoyen, pour exprimer les choses autrement, est la figure de généralité qu'il y a en chaque individu. Il peut être rapporté à ce qu'on pourrait qualifier de point zéro de la socialité. C'est une expression que j'emprunte à Claude Lefort. Car dans le moment de l'exercice du suffrage, chaque individu se trouve en effet dépouillé de ses déterminations et de ses appartenances. On peut dire qu'il est un pur membre du souverain. Et dans ce cas, c'est l'abstraction qui est la qualité qui constitue socialement le citoyen et qui sert de ressort au développement de l'idée d'égalité politique. C'est ce qui rend cette forme d'égalité entre les individus aussi radicale et aussi exemplaire. Elle s'affranchit en effet de toutes les formes de distinction qui s'imposent ordinairement pour ordonner et hiérarchiser les personnes. Et c'est pour cela que l'avènement du suffrage universel a opéré une révolution majeure. Car sa mise en œuvre n'a pas seulement ouvert une nouvelle étape dans le long processus d'émancipation de l'humanité, elle a marqué une rupture qualitative. On peut juger formelle cette conquête, mettre l'accent sur l'histoire ultérieure de ces multiples manipulations. Mais elle n'en a pas moins changé radicalement toutes les appréhensions antérieures du lien social. Le suffrage universel instaure en effet un lien dont la cohésion ne tient ni au ciment de la division du travail, ni au gage d'une croyance collective, ni à l'assignation à chacun d'une place dans un tout organisé. C'est un ordre qui n'est donc ni celui d'une société de marché, ni celui d'un monde hiérarchique traditionnel. On peut dire que le suffrage universel inscrit l'imaginaire collectif dans un nouvel horizon, celui d'une équivalence à la fois immatérielle et radicale. On peut dire que c'est un droit pur, en quelque sorte, qui est tout entier du côté de la définition de la norme et de la construction du rapport social. Ce n'est pas un droit qui constitue le sujet en définissant, par exemple, le principe d'autonomie individuelle ou en organisant, comme dans la plupart des cas, la séparation entre le privé et le public. Le droit de suffrage, on peut dire, produit la société elle-même. C'est dans ce cas l'équivalence entre les individus qui constitue la société. C'est en ce sens qu'il y a une spécificité proprement sociologique de l'ordre démocratique. C'est en effet seulement dans son cadre que le processus d'émancipation de l'individu s'accomplit pleinement. Il est pour cela la clé de voûte de la modernité et ne se confond pas avec son moment libéral. On pourrait dire que le suffrage universel opère une véritable révolution à l'intérieur même de la révolution de la modernité. Affirmer que chacun compte pour un a une part équivalente de souveraineté, une capacité identique à donner un avis informé sur les principes organisateurs de la vie commune va en effet beaucoup plus loin que de simplement proclamer des droits à la libre expression, à la dignité, à la sécurité, à la subsistance même. On pourrait soutenir que l'idée démocratique a introduit dans l'humanité une rupture intellectuelle qui est même beaucoup plus profonde que l'idée socialiste, car l'utopie d'une société économiquement égalitaire a été formulée bien avant qu'existe celle d'égalité politique. Et si on considère, par exemple, toute la littérature utopique du XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, dans la littérature utopique, vous trouverez un nombre considérable d'utopies qui proposent soit des formes de communauté des biens, soit des formes de répartition avec des mécanismes égalisateurs, même sans parler des utopies les plus célèbres comme celle de Morelli ou comme celle de Méliès, cette idée d'une répartition est généralement inscrite dans les utopies, alors qu'on ne compte aucune utopie au XVIIIe siècle, je dis bien aucune, qui prévoit le suffrage universel. Aucune. Les plus radicales prévoient presque une sorte de communisme primitif, si on peut dire, mais aucune ne pense au suffrage universel. Bien sûr, on peut dire que le socialisme aura fait en permanence l'objet d'une contestation parfois extrêmement vive ou féroce. Mais elle a été, en quelque sorte, une bataille d'intérêts. Les adversaires du socialisme ont pu dénoncer des effets jugés pervers, estimer que ces moyens étaient contradictoires avec ses objectifs, mais ils ne se sont pas élevés contre l'idéal d'une plus juste redistribution des ressources. Il ne s'est jamais agi d'un rejet philosophique et moral direct, alors qu'à l'inverse, le principe même de l'égalité politique a fait l'objet de contestations permanentes, non seulement au moment des révolutions américaines et françaises, mais tout au long du XIXe siècle. Et à la fin du XIXe siècle, on a encore des grands républicains qui redoutaient ouvertement que la voix d'un cantonnier puisse véritablement valoir celle d'un professeur à la Sorbonne. Il y a des formulations célèbres de Renouvier ou de Fouillé de ce type-là. Et pourtant, le suffrage universel a fini par s'imposer partout, mais sans, d'un certain point de vue, que sa dimension subversive était véritablement et toujours prise en compte, et que ses prolongements possibles aient été pleinement reconnus. On peut dire qu'il était accepté comme une donnée devenue inéluctable ou comme une procédure nécessaire pour pacifier la vie sociale. Il ne faut pas oublier toute l'iconographie du suffrage universel de 1848, où on oppose le fusil de l'insurrection, la violence du face-à-face social, à la pacification du bulletin de vote. C'est Tocqueville, d'ailleurs, qui, dans un passage intéressant de la démocratie en Amérique, dit qu'au fond, un des avantages les plus notables de la démocratie est un avantage procédural, car c'est la procédure qui divise le moins. Quand tout le monde, écrit-il, veut s'élever à la fois, il se trouve tout naturellement que la règle de l'égalité est celle qui convient le mieux à chacun. C'est exactement un raisonnement comme celui de Rawls sur le voile d'ignorance. C'est-à-dire, c'est l'avantage procédural qu'a le suffrage universel. Mais entre l'avantage procédural et la légitimation philosophique, il y a une grande différence. On peut dire que la figure du citoyen égal, elle est également en rupture avec les représentations antérieures de la citoyenneté. Qu'il s'agisse de la citoyenneté antique ou du citoyen propriétaire du temps des Lumières. La figure du citoyen égal, elle se distingue d'abord de la vision antique, parce qu'à Rome ou à Athènes, le citoyen, il est d'abord le membre d'une communauté avant d'être un individu doté de droits propres. Alors que dans la démocratie moderne, la cité des égaux ne s'édifie pas au sein d'une division sociale première, qui serait reconnue, acceptée, celle d'une division sociale dans laquelle les homoïs, les égaux, seraient distingués par le fait même de leur aristocratique parité. Ce rapport entre le sentiment de communauté aristocratique et le sentiment d'égalité est quelque chose de fondamental sur lequel j'aurai l'occasion de revenir longuement dans le cours. On peut dire que la moderne société de l'égalité se fonde au contraire sur une équivalence sans limite et sans discontinuité du tissu social. Elle sature en quelque sorte l'idée d'égalité dans un espace social totalement dense, absolument compact. Et le citoyen égal, il se distingue aussi du citoyen propriétaire. La figure du citoyen propriétaire est celle qui s'imposait naturellement au XVIIIe siècle. Quand on voit tous les projets de réforme des assemblées provinciales, quand on voit l'article « propriété » dans l'encyclopédie, l'idée est toujours que la citoyenneté, elle est une forme d'actionnariat de la société. Et donc, c'est une formule, un vocabulaire qui appartient à Sieyès, mais qui appartient aussi à Turgot. Les citoyens sont les actionnaires de la société. Et donc, ceux qui n'ont pas d'action dans la société ne sont pas citoyens. Ceux qui n'ont pas d'action, entre guillemets, c'est ceux qui n'ont pas de propriété. Car ceux qui n'ont pas de propriété sont des individus déterritorialisés. Ils ne sont pas inscrits dans le territoire. D'où tous les débats, d'ailleurs, qu'il y a eu au XVIIIe siècle sur le lien entre l'impôt sur la consommation et l'impôt foncier. Car l'impôt foncier est le signe d'une inscription dans le territoire, alors que l'impôt sur la consommation peut être payé par, entre guillemets, par des gens de passage. Et cette idée que le droit de cité est d'abord un droit d'inscription sur le territoire, que le droit de cité est un droit de participation à l'actionnariat de la société, a été la figure qui s'est longtemps imposé au XVIIIe siècle. Et au début de l'année 89, après même la circulaire de convocation aux États généraux, il est très frappant de voir qu'on a encore une majorité d'expression de l'idée de citoyenneté qui se lie à l'idée du citoyen propriétaire. En témoigne le fait, par exemple, que Condorcet publie un texte connu en janvier 1789 dans lequel il considère toujours le fait d'être propriétaire comme l'une des conditions naturelles pour avoir le droit de cité. Et que Sieyès lui-même reconnaîtra, enfin, écrira dans un premier temps que seuls les propriétaires peuvent représenter les habitants d'une paroisse. Et à l'été 1789, brusquement, il n'y a plus aucune référence faite aux citoyens propriétaires. Brusquement, c'est l'idée du citoyen égal qui s'impose, comme si un voile s'était soudain déchiré. Voile, déchirure de voile, qui bien sûr est liée à l'expérience des événements, et pas simplement au raisonnement philosophique, mais à cette évidence qui a aussi porté les changements de la nuit du 4 août. La deuxième dimension de la citoyenneté, c'est la participation à l'Assemblée des citoyens. Le droit de vote, en effet, n'est pas simplement un attribut personnel. Il est indissociable de l'existence d'une communauté, celle que forme le regroupement des citoyens. Et les deux éléments, possession d'un droit personnel et constitution d'une communauté, se sont superposés avec évidence au moment des révolutions américaines et françaises. D'où, dès l'origine, la centralité de la notion de collège électoral. Collège électoral, c'est le rassemblement des électeurs. C'est véritablement ça qui est le fondement de la démocratie. Et aux États-Unis, on trouve même très souvent indiqué que la démocratie, c'est le collège électoral, et pas simplement le droit individuel. Et le droit de vote, dans le cas français tout particulièrement, s'est exercé d'ailleurs dans un cadre physique dont nous avons perdu le souvenir, même si le terme de collège électoral subsiste toujours aujourd'hui. Ce cadre dont nous avons perdu le souvenir, c'est celui d'une réunion vivante des citoyens. Et l'écart avec les pratiques contemporaines est saisissant. Voter, aujourd'hui, c'est en effet, partout dans le monde, se présenter individuellement en un lieu déterminé, passer dans un isoloir pour glisser secrètement le bulletin de son choix dans une enveloppe avant de déposer dans l'urne destinée à le recueillir. L'opération ne prend que quelques minutes. Il n'y a pas de parole échangée. C'est un rite solitaire et silencieux. Et si une agglomération se forme, elle n'existe que sous les espèces d'une file d'attente. File d'attente qui est ordonnée, passive, dans laquelle nul ne songerait à entamer un véritable échange. Exemple accompli d'une pure sérialité. Cette pratique qui se confond pour nous aujourd'hui, avec l'idée même de suffrage universel, n'a pas toujours existé. L'isoloir n'a par exemple été introduit qu'en 1913 en France. Il n'a également partout été adopté qu'autour du début du XXe siècle. Le premier pays à avoir introduit l'isoloir a été l'Australie, d'où très longtemps on appelait ça the Australian ballot, c'est-à-dire le système australien de vote. Voter impliquait en retour à l'origine toujours de se réunir longuement, alors qu'aujourd'hui c'est une pratique solitaire. Et l'histoire du cas français, ne serait-ce que parce qu'elle est maintenant très bien documentée, est intéressante sur ce point. Cette histoire matérielle du vote a en effet longtemps été négligée au profit d'une histoire juridique et politique du droit de suffrage. Elle est pourtant décisive pour bien faire comprendre la nature même de l'exercice de citoyenneté. En 1789, la procédure du vote en assemblée s'était naturellement imposée, pour la simple raison que l'on n'en imaginait pas d'autre. Participer et se réunir, élire et délibérer n'avaient en effet auparavant jamais constitué des notions séparées. Nul n'aurait alors songé à donner au terme de participation électorale le sens individualisé que nous lui donnons aujourd'hui. Car c'étaient les anciennes assemblées d'habitants qui constituaient la référence incontournable pour tous. Décider, c'était toujours décider en étant rassemblés en commun. Ça n'était jamais une addition d'expression individuelle. Et le règlement de convocation des États généraux avait d'ailleurs naturellement prévu que les députés soient élus par un processus complexe. Il y avait souvent un processus de plusieurs degrés. C'était soit au sein de paroisses, soit au sein parfois de corporations. Il y avait un système électoral très compliqué. Mais dans tous les cas, fondé sur des votes qui étaient émis dans de larges assemblées, dans des groupes qui étaient des communautés naturelles, si je puis dire, les communautés naturelles d'habitants ou les communautés naturelles de profession. La seule différence, elle est de taille, réside dans le fait qu'après 89, ce sont des individus qui sont appelés à se retrouver et non plus les membres de corps, de métiers, de paroisses ou de quelques communautés constituées que ce soit. Et à cette époque, on employait ainsi, à propos de ces assemblées électorales, le nom un peu bizarre pour nous, d'assemblées par individu, pour les opposer aux assemblées de corps d'autrefois. Mais c'était des assemblées par individu, mais des assemblées tout de même. Elles étaient de deux sortes, les assemblées communales qui étaient chargées d'élire au scrutin direct les municipalités et les assemblées primaires de canton. Ce sont ces dernières qui retiennent surtout l'attention, car c'est dans le cadre des assemblées de canton que non seulement on élisait les juges de paix, mais qu'on désignait surtout les électeurs de deuxième degré qui, entre autres, choisissaient les titulaires de la représentation nationale et les membres d'autres fonctions publiques. Et ce sont donc ces assemblées de canton, les assemblées dites primaires, qui exprimaient et symbolisaient le plus directement la souveraineté populaire. Ces assemblées primaires étaient formées dans chaque canton. Leur taille a varié selon les réglementations successives de la Révolution, mais elles n'ont jamais dépassé 900 personnes. Au-delà de ce chiffre, la loi prévoyait toujours une subdivision. Et les cantons étaient calculés de telle façon qu'il était très rare qu'il y ait moins de 400 participants à une assemblée primaire. Donc les assemblées primaires, physiquement, ont été, pendant toute la Révolution française, des groupes de 400 à 900 personnes. Et à la campagne, le seul endroit qui pouvait les accueillir était une église. Donc toutes les assemblées primaires de la Révolution française à la campagne se sont réunies dans des églises. Parfois, à la belle saison, dans les cimetières qui jouxtaient l'église, qui est une forme de lieu public, ou sur la place qui était devant l'église. Ailleurs, dans les bourgs ou dans les villes, ça pouvait être le bâtiment d'une halle, par exemple, commerciale, ou ceux d'une administration locale. La nécessité du rassemblement était liée au fait que les opérations électorales étaient toujours très lourdes. Car même si, en fin de compte, il y avait un vote par un système de bulletin ou sur un registre, selon les cas, il y avait toujours une procédure qui impliquait d'abord de déterminer le bureau de l'Assemblée. Donc il fallait élire le bureau de l'Assemblée. Après, et c'était le doyen d'âge qui était appelé pour commencer la procédure de constitution du bureau de l'Assemblée. Après, les électeurs, pour voter, étaient appelés un par un, par leur nom, par ordre alphabétique. Donc, quand il y a 900 personnes dans une assemblée, on appelle le nom, on cherche la personne, elle vient, ce qui veut dire qu'une assemblée primaire se rassemblait en moyenne 2 à 3 journées. Même pour élire simplement des électeurs de deuxième degré, ce qui était le cas le plus simple, il fallait 2 à 3 jours pleins pour arriver à cette production électorale, si je puis dire. Donc, ça veut dire que pendant 2 ou 3 jours, les électeurs étaient rassemblés. Ils étaient ensemble, ils parlaient, ils pouvaient discuter. Et que les personnes présentes avaient donc le sentiment d'appartenir à un groupe. Elles n'étaient pas simplement des électeurs, elles appartenaient vraiment à ce groupe. Et elles vivaient la citoyenneté comme une forme de participation à un événement, autant que comme un droit personnel. Et dans nombre de textes officiels, on employait d'ailleurs la dénomination de membres des assemblées primaires pour désigner les citoyens actifs. On ne disait pas les électeurs, on disait les membres des assemblées primaires. Et ce d'autant plus d'ailleurs que les vrais électeurs au sens technique étaient les électeurs de deuxième degré, au sens où c'était ceux qui choisissaient les fonctionnaires publics, ceux qui choisissaient les représentants. Le propre de ces assemblées révolutionnaires était de faire se côtoyer des hommes que tout tenait ordinairement à distance. Ces assemblées élargissaient d'abord l'horizon de leur sociabilité immédiate, en mêlant les électeurs des différentes localités d'un canton, qui à l'époque pouvait être distant de 7 à 8 ou 10 kilomètres, et donc qui très souvent ne se connaissaient pas ou ne se côtoyaient pas. Donc un élargissement géographique. Il y a aussi un élargissement, on pourrait dire, sociologique. C'est l'expérimentation d'un type inédit de rapport entre des individus de conditions différentes, qui n'étaient pas amenés à se côtoyer, qui n'étaient pas amenés à se parler, qui n'étaient pas amenés à être considérés comme les participants sur un même pied d'égalité dans une assemblée des hommes. À ce propos-là, on peut dire que même l'inscription dans la neutralité d'un ordre alphabétique avait un effet symbolique extrêmement puissant. On connaît la description célèbre que Tocqueville a fait dans ses souvenirs du groupe d'électeurs qui part de Valognes le matin pour aller voter au chef-lieu de canton en avril 1848, où chacun marche en étant rangé par ordre alphabétique parce qu'on ne savait pas comment s'organiser. Eh bien, c'est une expérience qui est très importante pendant la Révolution française. Et Sieyès a cette expression importante. Il dit « L'assemblée primaire permet d'assimiler les hommes ». Et Sieyès a deux termes clés dans son vocabulaire sociologique et politique, le terme d'adunation et le terme d'assimilation. Le terme d'adunation, c'est-à-dire faire en sorte que des gens constituent ensemble une nation, aller vers la constitution d'une nation commune. Et le terme assimilation, c'est le mécanisme par lequel on se retrouve et on se considère comme des semblables. Et Sieyès disait, l'assimilation des hommes est un des mécanismes absolument clés de la conscience morale de la démocratie. Et cette conscience morale, elle est liée à ce qu'il appelait l'expérience du primariat, les assemblées primaires. Il appelait ça le primariat. C'est l'expérience du primariat qui fait sentir de façon physique, immédiate, le fait qu'on vit une expérience valorisante de la similarité. La similarité, simplement par les conditions équivalentes de la participation. Donc on pourrait dire que c'est une égalité d'inclusion. Alors que la similarité que j'ai décrite dans la première figure de la société des semblables, c'était le partage de qualités essentielles. Là, la similarité se fait par l'inclusion. Et c'est la communauté de l'inclusion, le fait qu'il y ait les mêmes conditions de l'inclusion, qui produit le sentiment d'égalité. Et il y a beaucoup de textes pendant la Révolution française qui illustrent ce plaisir et cette importance psychologique pour les citoyens de se retrouver, eux qui sont séparés par des tas de choses dans la vie commune, de se retrouver ensemble dans une assemblée primaire. Car si on est ensemble, si on est réunis par un ordre alphabétique au moment du vote, ben les formes de la distance, les formes du dédain, les formes de la séparation ne sont plus possibles. Il y a, d'une certaine façon, une modalité qui est celle d'une production symbolique et qui est très profondément psychologique. Car la citoyenneté, dans ce cas, on peut dire qu'elle ouvre un nouveau champ à l'imagination des hommes. Elle leur fait percevoir le moment même, même s'il est limité, de participation à ces assemblées, un rapport social inédit, ce qui est tout à fait différent lorsque l'on défile séparément devant l'urne. Il n'y a pas de production d'un sentiment de communauté de la même façon. On peut dire que les assemblées primaires faisaient entrevoir la possibilité d'un nouvel horizon de société. Et comme citoyen, chacun se sentait, dans cette participation, un moment dépouillé des pesanteurs et des déterminations, qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles, qui le constituaient. Qu'il soit riche ou pauvre, savant ou illettré, il participait à quelque chose d'inédit dans l'histoire des hommes. Il est d'ailleurs très frappant de voir que dans les comptes rendus de la période révolutionnaire, on emploie très souvent l'expression d'électricité morale pour traduire les formes de sentiments qui régnaient dans les assemblées primaires, comme s'il se produisait l'électricité, ce phénomène à la fois d'excitation et de rapprochement des électrons. Je ne sais pas quelles étaient les théories exactes de l'électricité à l'époque, mais en tout cas, on avait le sentiment que la référence à l'électricité donnait le sentiment de quelque chose de commun. Et on trouve dans beaucoup d'adresses à l'Assemblée nationale, on trouve beaucoup d'expressions de cette satisfaction de se voir considéré dans le statut de citoyen qui donne le sentiment d'une glorieuse égalité. Là, je cite quelque chose de très connu comme adresse. Et Mirabeau avait même pensé à un moment redoubler cet effet des assemblées primaires en organisant des cérémonies patriotiques qui étaient destinées à inscrire les hommes de 21 ans sur le tableau des citoyens. Et donc on voulait redoubler en quelque sorte le moment des assemblées primaires dans d'autres, j'y reviendrai tout à l'heure, dans d'autres occasions festives ou d'autres occasions de solennité pour prolonger en quelque sorte le sentiment psychologique de cet événement qui était la participation à une assemblée primaire. Être citoyen, dans ce cas, c'est se voir reconnu un statut personnel valorisant dans une collectivité. Étudiant de ce point de vue l'histoire américaine, la philosophe Judith Sklar a souligné ce point de façon très intéressante. Elle cite un juge fédéral connu du début du XIXe siècle qui dit la chose suivante. Il dit « Je sais combien il est illusoire de croire encore que mon bulletin de vote détermine quelque chose. Mais quand je dépose mon bulletin dans l'urne, j'éprouve au moins la satisfaction de savoir que nous sommes tous engagés dans une aventure commune. » L'histoire des assemblées n'est pas tout à fait la même, je n'ai pas le temps de le développer, mais n'est pas du tout la même, même aux États-Unis et en France. Mais le droit de vote, de ce point de vue-là, c'est bien compter pour quelque chose. C'est être reconnu comme quelqu'un d'important dans le groupe, comme le traduit tout simplement le fait d'être sollicité par les candidats. Le fait d'être sollicité dans une campagne électorale, il y a tout de même des rituels, sinon d'humiliation, au moins où on voit les puissants se courber devant les personnes modestes. Les personnes modestes, au moins une fois dans leur vie, au cours d'une campagne électorale, peuvent avoir le sentiment que les puissants se courbent devant elles, même si elles peuvent penser que c'est une pratique où il y a une part de démagogie et d'hypocrisie. Mais la science politique a insisté sur ce point depuis très longtemps. C'est que toutes les études depuis le XIXe siècle ont toujours montré que le droit de vote était moins lié au plaisir d'exercer un droit que d'affirmer une identité ou une appartenance. Quelque chose, il y a tous les travaux de Pisorno récemment, par exemple, l'ont très largement montré. La citoyenneté n'est pas simplement l'exercice d'un droit, elle est aussi la manifestation d'un statut et la manifestation d'une appartenance. Et c'est d'ailleurs ce qui explique, et c'est le cas notamment aux États-Unis, que des individus aient pu désirer passionnément le droit de vote, lutter pour lui avec la dernière énergie et ne pas s'en servir lorsqu'ils l'ont obtenu. C'est toute la discussion qu'il y a eu dans la science politique américaine entre le fait que pour aboutir à la loi sur les élections de 1965, qui est la loi clé dans la conquête des droits civiques aux États-Unis, puisque c'est la loi qui interdit toutes les pratiques, je dirais, de manipulation du suffrage pour écarter les noirs des urnes, avec les systèmes de literacy test, par exemple, avec tous les systèmes d'examen constitutionnel. Il y avait, depuis la guerre de sécession, il n'était plus possible légalement d'interdire le vote des noirs. Mais il y avait des tas de techniques, si je puis dire, pour de fait arriver à ce résultat, en disant, par exemple, qu'on faisait passer la loi de chaque, puisque le droit de suffrage est un droit non pas fédéral, mais de chaque État aux États-Unis, eh bien, la législation de certains États prévoyait qu'il fallait, pour voter, montrer qu'on était un bon citoyen et qu'on connaissait la Constitution. Bien sûr, les Blancs réussissaient toujours l'examen, qu'on ne leur faisait même pas passer, et les Noirs, on leur posait des questions très calées auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Donc, ils étaient écartés des urnes. Donc, la lutte pour l'acte de, la loi de 1965 a été fondamentale. Et tout de suite, on a constaté que l'utilisation du bulletin de vote était limitée. Donc ça veut bien dire que le bulletin de vote n'est pas simplement l'exercice d'un droit immédiat, mais c'est la conquête aussi d'un statut. Et que des luttes civiques intenses et une participation électorale à l'étiage ont ainsi pu se succéder. C'est d'ailleurs aussi une chose qui était observée au début de la Révolution française, où après 1790, on a pu noter des taux d'abstention qui ont parfois été spectaculaires. Être électeur, pourrait-on dire, c'est donc avant tout jouir d'un statut social, jouir de la reconnaissance d'une place dans la communauté, avant même que ce soit une possibilité personnelle d'agir. Cette dimension de la citoyenneté comme inclusion, comme appartenance, comme statut, on ne la retrouve pas simplement dans les assemblées primaires, lorsqu'elles existaient, mais on les retrouve aussi dans d'autres formes de réunions. Et c'est pour cela qu'on a cherché, pendant la Révolution française, à produire un sentiment continu de communauté citoyenne. D'où l'importance qui était donnée, notamment, aux grandes fêtes publiques. Les grandes fêtes publiques, détachées de toute contrainte institutionnelle et de tout but immédiat, avaient simplement comme objet direct la production sensible d'une communauté citoyenne. Et dans un siècle qui était imprégné de philosophie empirique, les idées de Condillac étaient alors celles qui, je dirais, dominaient les représentations du rapport social à la psychologie, on était persuadé que la chaleur des rassemblements et le maniement des symboles auraient des effets sociologiques et moraux tangibles. Avec les fêtes, disait un conventionnel célèbre, on peut jeter la nation au moule. De fait, on avait le sentiment qu'on pouvait construire véritablement la nation. La construire comment ? Parce qu'on pouvait, à travers ces fêtes, gouverner l'imagination des hommes. Et c'était une grande idée continue de la Révolution française, qu'il ne fallait pas simplement gouverner avec les lois, mais qu'il fallait gouverner l'imagination même des hommes. La formule, qui sera une formule célèbre, qu'utilisera Tocqueville après en parlant des habitudes du cœur, habits of the heart, comme on dit en anglais, eh bien, en fait, ce sont des formulations que l'on trouve dès la période révolutionnaire. Et cet impératif de créer un monde commun en saisissant l'imagination des hommes montrait qu'on ne comptait pas simplement sur les institutions pour produire la citoyenneté. On savait que la question de la citoyenneté et que le sens de l'égalité se jouaient aussi dans les têtes et dans les cœurs. Et c'est pour cela que les fêtes, pendant la Révolution française, ont été considérées comme des moyens directs de production de la société. Les fêtes révolutionnaires, elles étaient d'ailleurs, leur statut et leur rôle étaient d'ailleurs reconnus dans la Constitution. Dès la Constitution de 1791, il est noté « Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, fonction commémorative, mais aussi pour entretenir la fraternité entre les citoyens. » Et on peut dire que malgré la multiplicité de leurs objets, il y a des fêtes, il y a même eu des fêtes de la vieillesse, il y a eu des fêtes de la souveraineté du peuple, il y a eu des fêtes de la vertu, il y a eu des fêtes de l'égalité, il y a eu des fêtes sur énormément, qui ont été consacrées à énormément de thèmes. Mais toutes ces fêtes ont eu une même fonction, de rassembler les citoyens dans un espace un et indivisible de l'ardeur civique et de la transparence des cœurs. Cette idée de rassemblement d'ardeur civique et de transparence des cœurs est une très belle formule que Jean Starobinski a utilisée dans son livre 1789 ou Les emblèmes de la raison. On peut dire que de cette façon, les fêtes révolutionnaires ont eu une double fonction, offrir l'expérience d'un espace un moment transfiguré et harmonique, et d'autre part, mettre en scène l'abolition des distinctions. Et de très nombreuses gravures pendant la Révolution française ont circulé pour reproduire justement ces moments festifs. Les plus célèbres sont par exemple les gravures du 14 juillet 1790, la première fête de la Fédération. Et elles, toutes ces gravures sont constituées, si je puis dire, graphiquement, de telle façon qu'elles donnent à la fois un sentiment très fort d'unité et de fusion de l'individu dans une collectivité. Et donc c'est vraiment une égalité fusion, une égalité d'inclusion. C'est très frappant notamment dans toutes celles qui reproduisent des fêtes qui ont eu lieu au Champ de Mars. Fêtes qui étaient les plus nombreuses, car le Champ de Mars pendant la Révolution était un petit peu à l'écart de Paris, à l'écart des places principales de Paris. Mais c'est toujours au Champ de Mars que les grandes fêtes ont été organisées, parce que le Champ de Mars offrait la possibilité justement d'un espace détaché des habitudes. Ça n'était pas l'espace des places habituelles. On aurait pu penser que la place de la Concorde, par exemple, allait être un espace, l'ancienne place Louis XV, qui allait devenir un espace de rassemblement révolutionnaire. Non, pas du tout. On a choisi un lieu à l'écart. On a choisi un lieu désert parce qu'il pouvait être complètement, je dirais, au service d'une reconstruction de l'imagination. Il n'était pas marqué par un lieu avec ses souvenirs, ses significations. Michelet a des paroles très, très fameuses et très célèbres sur ce choix du Champ de Mars, en expliquant pourquoi la Révolution avait choisi pour symbole un lieu vide. Parce que le lieu vide est celui, justement, dans lequel l'imagination peut totalement s'investir, alors qu'un lieu déjà existant est un lieu qui est déjà, en quelque sorte, préempté par des traditions, des idées. Il n'est plus mentalement totalement disponible. On peut dire de cette façon que le véritable objet de la fête, c'est la production de la société elle-même. La fête est à la fois le symbole et l'école du grand tout national et de la communauté civique. La fête, elle est une école de l'égalité également. On remarquera d'ailleurs que dans toutes les comptes rendus des fêtes de la Révolution française, la notion de commotion électrique est également très présente. Donc, pour rendre compte des assemblées primaires, on parle souvent de l'électricité morale, et pour parler des fêtes révolutionnaires, très souvent, ce sera l'idée de commotion électrique. Vous voyez que l'électricité circule dans les deux cas. Et le côte à côte d'une marche ou de l'observation d'un spectacle ou de l'écoute d'un discours, d'un certain point de vue, abolissait les différences. Et tout se passait pendant ces moments comme si prenait vie une cité utopique, celle d'une société d'égaux. Elle tendait aux femmes et aux hommes, je dis bien aux femmes et aux hommes parce que les fêtes civiques, il y a une participation des femmes, dans lesquelles ils pouvaient voir la mise en abîme de leurs espérances. Prenez ainsi vie le type de fête, tout simplement, que Rousseau avait appelé de ses voeux dans la lettre à D'Alembert sur les spectacles, quand il disait, je le cite, « planté au milieu d'une place un piquet couronné de fleurs. Rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Faites mieux encore. Donnez les spectateurs en spectacle. Rendez les acteurs eux-mêmes. Faites que chacun se voit et s'aime dans les autres afin que tous en soient mieux unis. » Là, on a véritablement une idée très, très sensualiste, justement, de cette façon dont l'imagination d'égalité peut travailler dans ces moments-là. Et on peut dire que les fêtes étaient ainsi appelées à prolonger, en les dramatisant, les effets compensateurs des différences que les formes quotidiennes de la civilité tendaient déjà à mettre en œuvre. Elles étaient une radicalisation, un moment qui permettait de radicaliser cette forme de secondarisation qui était celle de la civilité. Comment était constitué donc le ciment des communautés politiques dont nous venons d'évoquer de moments importants, le moment de la participation à des élections primaires et le moment de participation à des fêtes? Les Américains, eux, n'avaient pas eu besoin d'exciter leur imagination pour donner chair à l'idée de communauté des citoyens. Alors que pour rompre avec leur passé, les Français avaient érigé la nation en une totalité abstraite, détachée des précédentes identités sociales ou provinciales, les institutions de l'Amérique indépendante s'étaient en effet directement greffées sur les réalités communales déjà existantes. Les formes de gouvernement local qui existaient pendant la période coloniale, avant l'indépendance, avaient en effet globalement été maintenues et consolidées. Il n'y avait eu aucune rupture dans ce domaine. L'indépendance avait certes opéré une révolution politique globale, mais n'avait pratiquement pas affecté la façon dont chaque Américain percevait son appartenance immédiate à une communauté politique. Et la notion sociologique de communauté, pourrait-on dire, était même première aux États-Unis. Et elle était beaucoup plus immédiatement sensible que celle de citoyenneté juridique. On n'y séparait pas non plus aux États-Unis la vision procédurale de la formation d'une volonté commune, de l'existence d'un fort sentiment commun. Et les communautés auxquelles les individus s'identifiaient au milieu du XVIIIe siècle étaient en effet généralement très homogènes, en termes religieux, c'était alors essentiel, mais également socialement. Régnait dans ces communautés américaines, pourrait-on dire, un fort sentiment d'égalité, homogénéité. Ce n'était pas le cas en France, d'où la nécessité permanente en France de donner chair à l'idée de la nation et au sentiment d'égalité citoyenne. Et à côté des dramaturgies électorales et festives, il fallait donc donner un sens quotidien à l'idée de communauté des citoyens. Et on attendait pour cela beaucoup de l'école. Dès le milieu du XVIIIe siècle, la question de l'éducation s'était ainsi liée à la perspective politique de l'affirmation de la nation en France. Et le livre qui marque la grande rupture et qui donne le ton de ce que va être tout le mouvement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est le livre de Caradoc de La Choletaie, Un essai d'éducation nationale. Sous le titre « Essai d'éducation nationale », La Choletaie, qui était d'ailleurs, en quelque sorte, l'homme du Parlement de Paris pour lutter contre les jésuites, c'est le moment où on a fermé les écoles jésuites en France, et La Choletaie était celui qui a publié un livre d'études sur les constitutions jésuites pour montrer comment ces constitutions posaient un problème de souveraineté en France et pourquoi donc il fallait fermer les écoles jésuites. Mais son idée, au-delà de ce combat dont il a été en quelque sorte l'instrument intellectuel et juridique, l'idée fondamentale de La Choletaie, c'est que l'école est un moyen de construction de la société. L'école distingue donc l'éducation nationale, c'est le titre de son essai, et l'instruction publique. Et à partir de lui, on peut dire que se développeront tout un ensemble de visions pour élargir cette visée à l'idée d'une société pédagogique qui a pour tâche d'apprendre au peuple à la liberté et de fortifier chez lui le sentiment d'égalité. Dans son travail sur l'éducation publique, Mirabeau avait résumé ce programme en appelant, je le cite, « à s'emparer de l'imagination des hommes » pour les instituer en citoyens. Et il a vu cette formule célèbre, il avait lancé aux membres de l'Assemblée nationale, « Vous devez chercher le moyen d'élever promptement les âmes au niveau de votre constitution et de combler, je le cite, « l'intervalle immense qu'elle a mis tout à coup entre l'état des choses et celui des habitudes ». Eh bien, le but de l'éducation, c'est de combler cet intervalle entre l'état des choses et celui des habitudes. Donc cette idée de Mirabeau, qui sera partagée par l'ensemble des constituants, et ensuite après par Condorcet, par Daunou, par La Canale et par tous ceux qui, y compris après Thermidor, seront en quelque sorte les grands théoriciens de l'éducation nationale, reprendront cette idée de l'école comme un moyen de passer au moule les Français, si je puis dire, de la même façon qu'on disait que les fêtes peuvent jeter au moule la nation, et bien que l'école peut passer au moule le peuple français. Et aux États-Unis, l'égalité et homogénéité, ce que l'on peut qualifier d'égalité d'inclusion, a eu aussi une base essentiellement morale et culturelle. Mais en France, les choses ont été appréhendées de façon beaucoup plus volontariste, car il n'y avait pas ces communautés locales, il n'y avait pas ces expériences de rassemblement dans des petites villes relativement homogènes qui caractérisaient l'Amérique. Et c'est donc par le biais de politiques d'uniformisation que l'État a voulu contribuer à la construction d'une république égalitaire. Et donc, à l'égalité-homogénéité américaine, s'oppose davantage une égalité abstraction en France. produire les éléments d'équivalence entre les citoyens, au-delà d'un commun de participation de la citoyenneté active, est ouverte ainsi la voie de ce qu'on peut appeler le communauté d'assignation à une même norme, à une même forme. Et c'est de cette façon-là, me semble-t-il, qu'il faut comprendre toutes les opérations comme celle de la division du royaume qu'on a voulu refaire en 1789 pour détruire l'esprit de province qui était assimilé à une particularisation destructrice de l'esprit d'égalité. Produire le sens de la communauté, c'était aussi modifier l'idée même de communauté, que ce ne soit pas une communauté des habitudes, mais une communauté de citoyenneté. Alors qu'aux États-Unis, la communauté de citoyenneté s'est enracinée dans la communauté des habitudes, pour faire vite. Et le culte centralisateur des législateurs révolutionnaires en France doit être appréhendé dans cette perspective. Et si la centralisation administrative en France a eu pour objectif de permettre une gestion jugée plus efficace, c'est aussi parce qu'elle a été plus essentiellement rapportée à une certaine vision de l'égalité. C'est de cette façon-là qu'il faut comprendre la fameuse politique d'unification de la langue et d'anéantissement des patois, par exemple. On peut dire que l'égalité est dans ce cas un attribut de l'indivisibilité. C'était aussi le cas de la réforme métrologique, la décision d'uniformer les poids et les mesures. Une décision d'uniformisation de cette façon, c'est justement produire de nouveaux équivalents généraux. Et l'égalité, c'est être soumis à des mêmes équivalents généraux. Alors, il y a les équivalents généraux, je dirais, du lien social naturel, mais il y a les équivalents généraux de ceux que l'on construit dans une société qui est une société plus élargie, ce qui était le cas de la société française, bien sûr, 25 millions d'habitants par rapport aux 3 millions de l'Amérique, je le rappelle. On peut dire que l'État, de cette façon, en France, a cherché à façonner une nation d'égaux en procédant à un rachat permanent de la diversité des apparences. Les Français étaient évidemment différents, divers, mais il fallait racheter ces apparences de la diversité pour dessiner de nouvelles formes d'organisation sensible de l'espace, de la langue, de la mesure des choses, de la mémoire elle-même, pour instiller dans l'imagination des hommes le sens d'une égalité d'appartenance. Et cette philosophie s'est même traduite dans le domaine du rôle dévolu au monopole public. Les monopoles publics ont en effet essentiellement été défendus en France au titre de la fonction de gardien de l'égalité qu'on entendait leur assigner. C'est quelque chose qui est très fortement apparent dans toutes les premières théories du monopole public que l'on voit sous la monarchie de Juillet ou sous le Second Empire. Pour qualifier les différentes figures de ce travail de production de l'égalité, Sieyès a toujours insisté justement sur la nécessité de ne pas simplement penser en termes d'adunation, mais d'assimilation. Et assimilation, c'est la production des équivalents généraux. Cette assimilation, que nous employons maintenant évidemment dans un sens différent, elle était une composante intellectuelle essentielle de la Révolution française. Elle est une composante de ce que Sieyès a appelé aussi, en reprenant l'expression à d'Holbach, une éthocratie. C'est-à-dire c'est le pouvoir des sentiments, le pouvoir de la morale. Et c'est une idée très importante de d'Holbach, dont beaucoup de livres ont joué un rôle très important, mais cette éthocratie particulièrement, c'est l'idée que s'il n'y a pas de sens commun, s'il n'y a pas de croyance commune, s'il n'y a pas de morale commune, eh bien alors, il n'y a pas de communauté sociale possible. Et on peut dire qu'en même temps que Rousseau, d'Holbach développe cette idée d'une économie d'ensemble des liens et des affects qui fait qu'à côté des institutions, on a un gouvernement des affects, on a un gouvernement des sensibilités, on a un gouvernement des symboles. Le livre de d'Holbach, Éthocratie, a été réédité il n'y a pas très longtemps aux éditions Edis, et on peut le trouver également dans la nouvelle édition des œuvres complètes de d'Holbach, qui est en cours de publication. À côté de ce sentiment de participation à les assemblées politiques, de ces moments intenses que sont des fêtes, de cet apprentissage des équivalents généraux, que ce soit à travers l'école ou à travers tout un ensemble de mesures d'ordre administratif ou symbolique, il y a une autre modalité de renforcement du lien social, c'est la confiance. La confiance, c'est en effet ce qui permet à chacun de se projeter dans le futur. Je rappelle que la définition fameuse de la confiance comme réducteur d'incertitude. Dans le séminaire qui sera organisé à Prescourt, il y aura une personne qui viendra présenter tous les travaux contemporains sur la confiance et sur les nouvelles théories de la confiance. Parce qu'en permettant à chacun de réduire l'incertitude de son horizon, la confiance joue un rôle clé dans la coopération. C'est un instrument de coopération sociale, un instrument d'interaction entre les personnes. Elle est pour cela, comme l'a dit Haro justement, une institution invisible qui contribue à renforcer l'échange social. Et la Révolution n'a pas simplement cherché à changer les institutions et les lois visibles, mais aussi à produire des institutions invisibles. Et on peut dire que la production de citoyenneté, la production dans les fêtes, la production dans l'école, c'était aussi la production d'institutions invisibles. Mais la confiance, elle est également quelque chose de très important, car elle a, dans ce cas-là, une dimension proprement civique. Elle est un accélérateur de réciprocité et un facteur de renforcement du champ commun. C'est ce qui explique la très grande attention qui était portée pendant la Révolution aux problèmes posés par ceux qui trahissaient la confiance de leurs concitoyens. Le failli, le banqueroutier ou le débiteur insolvable apparaissaient à cet égard comme les figures qui incarnaient de la façon la plus évidente une rupture du contrat de confiance qui était sous-jacent aux engagements commerciaux et financiers. Ils interrompaient la chaîne, si l'on veut. Ils affaiblissaient la communauté par les effets immédiats de leur défaillance, autant que par leur mauvais exemple. Et c'est ce qui explique leur exclusion du droit de vote et de l'éligibilité en 1789. L'exclusion du droit d'éligibilité a toujours été considérée comme plus grave que l'exclusion du droit de vote pendant la Révolution, de même que les conditions d'éligibilité étaient considérées comme plus sensibles que les conditions du droit de vote lui-même. Pendant la Révolution française, tout le monde était éligible, alors qu'il y avait des petites limitations, payer 3 jours d'impôt de travail pour être électeur. Et ne pas rembourser une dette, c'est Mirabeau qui avait plaidé avec fougue sur le sujet, équivaut en effet à rompre un engagement, à blesser la réciprocité, bref, à établir de fait une inégalité qui impose en fait l'équivalent d'un privilège, c'est-à-dire l'équivalent, le droit, un droit spécial pour celui qui rompt l'équilibre. Il y a eu aussi, pendant la Révolution française, inscrit dans le Code pénal, pour des actions qui étaient marquées par la bassesse ou par la tromperie, sans qu'elles soient considérées formellement comme des délits, mais dont on considérait qu'elles portaient gravement atteinte à la confiance publique ou à la morale sociale, il y a eu une sanction qui était celle de la dégradation civique. La dégradation civique, ce sont ceux qui ont rompu aussi la confiance, qui n'ont pas joué les règles du jeu, étaient ainsi visés des faits très disparates d'ailleurs, qui étaient prévus dans les textes, comme la violation du secret postal, certains abus de confiance privée, des comportements violents dans une assemblée primaire, des abus de pouvoir de la part de fonctionnaires, ou encore l'utilisation de passe-droits. Dans tous ces cas-là, il n'y avait pas de sanctions pénales à proprement parler, mais c'était des comportements, si je puis dire, ou des pratiques qui étaient considérées comme une atteinte grave à la confiance publique. Et donc, un tribunal pouvait condamner à la dégradation civique un citoyen ou une citoyenne, car si les citoyennes ne votaient pas, elles pouvaient être dégradées. Et il y avait un greffier du tribunal qui adressait ces mots à haute voix. « Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme. La loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français. » Et le condamné était mis en place, était mis au carcan, au milieu de la place publique, et pendant 2 heures, il était exposé au regard du peuple avec un écriteau où était gravé en gros caractères son nom, le crime qu'il avait commis, enfin le crime, le défaut de confiance qu'il avait commis et le jugement rendu par lui. Ce sont hélas des choses qu'on a revues pendant la Révolution culturelle. Mais l'important à retenir, c'est que c'est l'idée que la confiance est un élément central du contrat social. Et donc on peut dire qu'il y a eu dans l'article 31 du titre 1 du Code pénal l'introduction d'un crime, si l'on veut, de lèse-confiance. Parce que la communauté des citoyens, elle n'est pas simplement donc l'individu qui exerce ses droits, elle est la constitution de cet espace de confiance et des preuves de l'égalité. Sur ce point, je ne peux que vous inviter à regarder le livre très intéressant d'Anne Simonin, « Le déshonneur dans la République, une histoire de l'indignité nationale », puisque la sanction elle a existé très tardivement et que notamment au moment de la guerre d'Algérie, il y a eu de grands débats juridiques sur l'application à un certain nombre de personnes de l'indignité nationale. Voilà, je m'arrête là pour cette considération sur la communauté des citoyens. J'ai fait référence au problème de la confiance. Ça me permet de dire qu'à partir du mercredi, 10 février, commencera le séminaire. Le séminaire présentera tout un ensemble de... Vous pouvez en voir le programme sur le site du collège. Il sera affiché dans la cour dans une quinzaine de jours. Le séminaire présentera tout un ensemble de travaux récents sur, j'irai à la fois, l'histoire et la théorie de la démocratie. La première séance présentera des travaux très originaux sur des choses qu'on a découvertes et apprises récemment sur le tirage au sort en Grèce. Et la dernière séance du séminaire présentera tous les travaux sur l'idée de confiance aujourd'hui. Et pour le reste, regardez sur le site. Voilà, donc on reprend dans deux minutes.